France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Jordan Fuentes. L'état de droit fragilisé en Europe centrale et orientale, des forces politiques qui s'arrogent le monopole de la légitimité populaire, mais sans respecter le droit, c'est la série de la semaine dans Culture Monde, avec aujourd'hui un cas très particulier, puisqu'il s'agit en Pologne de rétablir l'état de droit en contournant le droit.
Il faut remettre de l'ordre dans presque chaque domaine. Cela va prendre plus qu'une année, car le parti Droit et Justice a gouverné pendant 8 ans et il a laissé derrière lui un pays qui doit être entièrement remis sur pied.
Je pense que ce qui importe ici, c'est essentiellement de savoir si nous allons de l'avant avec des changements, si nous sommes capables de défaire cette tendance libérale que nous avons eue en Pologne, si nous voulons créer ou recréer des institutions responsables, des tribunaux qui sont indépendants.
Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe maintenant. Le gouvernement s'empare de force des différentes institutions et des médias. C'est quelque chose d'impensable. Cela me rappelle le temps de la loi martiale en Pologne, quand les communistes ont fait la même chose.
Quand la plateforme civique, emmenée par Donald Tusk, a remporté les élections législatives à la fin de l'année 2023, sa nouvelle majorité a parlé d'un miracle polonais, un moment polonais. Il s'agissait de rétablir l'état de droit, de faire table rase après 8 années au pouvoir du parti Droit et Justice, le PiS, parti national populiste de Jarosław Kaczyński. Une élection considérée comme une rupture dans un pays pourtant habitué aux alternances. Il faut dire que cette coalition disparate réunie autour du libéral Donald Tusk héritait d'une Pologne dont les institutions avaient été comme absorbées, noyautées par des proches ou sympathisants du PiS, y compris et surtout la justice, dont le manque d'indépendance a coûté 7 ans de procédure avec l'Union européenne et des sanctions financières. Alors comment restaurer l'état de droit, selon lequel tout homme politique agit dans le cadre d'un mandat contraint par le droit, quand les moyens légaux de le faire sont eux-mêmes récalcitrants, voire totalement hermétiques? La justice, dont le tribunal constitutionnel, mais aussi le Parlement où la plateforme civique et ses alliés n'ont qu'une courte majorité face à un PiS qui, lui, reste solide. Purges, poursuites judiciaires, liquidation d'institutions, les méthodes employées pour restaurer la démocratie sont considérées jusque dans le propre camp de Donald Tusk comme antidémocratiques ou à la limite en tout cas. Et le PiS peut à loisir, quant à lui, reprocher à ses successeurs la même chose que ses successeurs lui reprochaient. Bonjour Jérôme Heurtaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, ancien directeur du CEFRES à Prague et vous avez publié auprès de Sciences Po, la démocratie par le droit. On est vraiment dans le sujet, vous connaissez très très bien la Pologne par ailleurs. Nous serons bientôt en ligne depuis Varsovie avec le rédacteur en chef de Kultura Liberalna, c'est un hebdomadaire polonais, Jarosław Kwisz, qui est par ailleurs associé de recherche à l'école d'études mondiales et régionales de l'université d'Oxford. Alors Jérôme Heurtaud d'abord, est-ce que les réformes entreprises jusque-là par Donald Tusk depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis décembre 2023, est-ce qu'elle consiste d'abord à défaire tout ce qui a été fait, toutes les mesures prises pendant les 8 années au pouvoir du parti Droit et Justice, donc le PiS de Jarosław Kaczyński?
Alors c'est une excellente question et je crois que vous avez déjà très largement problématisé le sujet. Oui, il faut défaire, mais il faut aussi faire. Et je me souviens d'une métaphore, d'une image qu'avait employée par 3 politologues juste après justement le changement de régime dans les années, dans le début des années 90, 3 politologues étrangers, pas polonais, qui avaient dit que pour comprendre comment on reconstitue des institutions démocratiques, comment on forme un nouveau régime, il faut à la fois créer créer, constituer de toutes pièces, mais aussi défaire ce qui avait été fait pendant 40 ans de communisme. Et il faut qui plus est réparer le bateau en pleine mer. J'avais bien aimé cette image et je crois que le gouvernement de Donald Tusk et toute sa majorité doit à la fois défaire mais aussi refaire, et en quelque sorte une injonction un peu paradoxale ou contradictoire, qui consiste à la fois à réparer la machine tout en la faisant fonctionner. Parce que vous pouvez, vous devez réparer l'état de droit, mais aussi faire en sorte que la justice fonctionne.
On va entrer dans certains détails d'ailleurs, Jérôme Heurtaud. J'accueille Jarosław Kujsz, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Varsovie. Vous êtes rédacteur en chef de Kultura Liberalna. Vous êtes associé de recherche à l'École d'études mondiales et régionales de l'Université d'Oxford. Vous avez publié The New Politics of Poland en 2023 aux presses universitaires de Manchester. Alors, je ne sais pas si la liaison est très très bonne. On va faire un petit test, on va essayer en direct. Puisque vous êtes rédacteur en chef d'un hebdomadaire polonais, est-ce que vous avez chaque semaine à rendre compte, à analyser des mesures prises par Donald Tusk pour restaurer l'état de droit, comme il le dit? Est-ce que c'est un flot continu de mesures depuis 2023?
Ah, écoutez, premièrement, merci de m'avoir invité. Deuxièmement, justement, il s'agit d'une situation inédite. Finalement, on est toujours aujourd'hui dans la crise de l'état de droit. Nous sommes toujours bloqués en 2015, lorsque la Constitution a été violée pour la première fois, et les décisions de la Cour constitutionnelle n'étaient pas imprimées pour être désobéies. Donc, à l'époque, le non-respect de la loi est devenu la norme. Et la première atteinte à la Constitution en a entraîné une autre, et c'est comme une cascade de violations de la loi. Mais finalement, avec les populistes, l'objectif est toujours très concret, et il s'agissait d'abolir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc c'est vraiment comme sortir de 2015, et c'est très très difficile à faire. Parce que, comme vous avez mentionné, il faut en même temps travailler comme si rien n'était, parce que le pouvoir judiciaire devrait travailler. Et en même temps, il faut refaire quasiment tout ce qui s'est passé pendant 8 ans. C'est très difficile, en plus que les partis de la coalition démocratique n'ont pas gagné tous les pouvoirs. C'est ça qui est très important.
Oui, ils ne
ont remporté les élections, mais ils ont obtenu une partie des pouvoirs législatifs et une partie du pouvoir judiciaire.
Alors
ils sont bloqués.
Ils sont bloqués pour l'instant. Vous parlez, Jarosław Kujsz, d'un cas de souveraineté post-traumatique en parlant de la Pologne d'aujourd'hui, ou d'un post-populisme de bricolage juridique. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que recouvrent ces formules que vous avez trouvées pour parler de la période actuelle. Donc, un pouvoir en Pologne aujourd'hui qui veut revenir sur tout ce qui a été entrepris depuis 2015 par le PiS, ce qui avait été entrepris par ce parti de qu'on appelle le national populiste. Alors, on peut peut-être en donner quelques détails. Jérôme Heurtaud, le fait, ce qui avait le plus occasionné de disputes avec l'Union européenne, c'était la création d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême. C'était une mesure introduite en 2019. Et cette chambre disciplinaire avait la possibilité d'autoriser les poursuites pénales à l'encontre des juges, voire leur arrestation. Qu'est-ce qui a été fait pour revenir là-dessus et sur d'autres réformes de la justice qui avaient été entreprises à l'époque du PiS?
Oui, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur les principaux marqueurs de cette captation par le PiS de l'appareil de la justice. Vous avez évoqué cette création de chambres, en fait deux chambres qui ont été créées et qui, sur lesquelles d'ailleurs le PiS a dû revenir justement du fait des pressions européennes, mais il y a eu toute une série d'autres mesures, d'autres réformes. Vous avez eu notamment, et c'est très important dans un état de droit, la captation du tribunal constitutionnel par le biais de nominations politiques, par le biais du coup aussi de décisions très partielles initiales prises par ces juges constitutionnels qui ont pris des décisions pour des raisons plus politiques que par respect de la lettre droit.
Ils étaient eux-mêmes proches du PIS et nommés par lui. Comment?
En partie, et notamment le président, la présidente de l'époque, qui était une proche de Jarosław Kaczyński. Et les décisions qui ont été prises par ce tribunal constitutionnel à la botte du pouvoir ont suscité des polémiques. On se souvient en 2020, notamment, de l'arrêt du tribunal constitutionnel qui avait jugé inconstitutionnel l'avortement dans le cas d'une malformation grave et irréversible du fœtus, alors qu'il s'agissait d'un des quatre cas justement où l'avortement était jusque-là autorisé.
Alors, il y a eu 93, on en parlera dans le fœtus d'ailleurs.
Le tribunal constitutionnel, il y a eu la Cour suprême. La Cour suprême, c'est l'organe judiciaire polonais de dernière instance. Hein, c'est un peu la clé de voûte de la justice polonaise, composée de plusieurs chambres spécialisées. Et là aussi, par le biais de nominations, alors par le président de la République, c'est lui qui nomme les juges de la Cour suprême. En 2017, la majorité a voulu révoquer plusieurs juges, et même le président a apporté son veto face au tollé provoqué. Mais par la suite, par le biais d'une réforme du Conseil national de la magistrature, il a pu ainsi nommer à la Cour suprême des juges qui étaient en fait des juges proches du pouvoir. Pourquoi ? Parce que ce Conseil national de la magistrature a été transformé afin que le ministre de la Justice joue un rôle plus important dans la nomination des juges. Et donc, vous voyez qu'à tous les étages de l'appareil de justice, vous avez une politisation radicale de cet appareil qui passe enfin, et c'est quelque chose qui est tout à fait important aussi, par la possibilité, par le ministre de la Justice, qui d'ailleurs, il faut aussi le rappeler, est également procureur général du pays, de nommer et révoquer les présidents et vice-présidents des tribunaux de droit commun, et ça a permis de faire entrer dans tout l'appareil judiciaire ce qu'on appelle des néo-juges, c'est-à-dire des juges qui certes ont peut-être quelques diplômes de droit, mais qui sont pas forcément compétents, qui sont pas nécessairement les meilleurs, et qui ont été appointés, comme on dit, pour des raisons politiques.
Des néo-juges dont la nomination est entachée d'irrégularités, comme le disait aussi la Cour de justice de l'Union européenne dans son dernier rapport. Il faut dire que le pouvoir à l'époque du PIS avait fixé l'âge de départ à la retraite des juges, par exemple, que ce soit pour les juridictions de droit commun et pour la Cour suprême, à 65 ans contre 67 auparavant, ce qui avait aussi permis de faire de la place. Donc c'était un mélange à la fois d'infractions au droit, à la loi et de réformes qui progressivement ont favorisé des proches du PIS. Tout ce sur quoi Donald Tusk, quand il arrive au pouvoir en décembre 2023, veut faire table rase.
Wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka.
Ce résultat parle pour lui-même. Personne ne peut plus le fausser, plus personne ne peut nous l'enlever. Nous avons gagné la démocratie, nous avons gagné la liberté, nous avons de nouveau gagné notre chère Pologne. C'est l'un des plus beaux jours pour la démocratie polonaise. Je n'ai aucun doute que ce jour entrera dans l'histoire de la Pologne comme un jour lumineux, comme un jour qui ouvre une nouvelle époque, la renaissance de la République polonaise. Nous avons gagné cette bataille. Nous formerons un gouvernement dans les plus brefs délais, un bon gouvernement, démocratique, avec nos partenaires.
Restaurer l'état de droit, c'était un programme à part entière. Jérôme Heurtaux, pour Donald Tusk et pour les partis avec qui il s'est mis d'accord sur un accord de coalition, c'était presque même le seul sujet sur lequel ils étaient d'accord.
Ah bah oui, tout à fait, puisque c'est une coalition particulièrement hétéroclite qui d'ailleurs a trouvé à s'unir finalement grâce au PIS. Hein. Le PIS a tellement chargé la barque de son emprise sur tous les secteurs de la vie sociale et politique. Ça a poussé l'opposition, qui pourtant est extrêmement hétérogène, à s'unir pour des raisons politiques et électorales, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais on entendait Donald Tusk qui disait que c'était un rétablissement de la démocratie. Alors c'est vrai que c'est à ce parfum-là, et en tout cas c'est le cadrage qui s'est imposé hein, dans les médias et pour une partie du personnel politique, et également pour les observateurs étrangers. Mais c'est quand même une alternance, disons, je crois que c'est la 7e alternance, et c'est la 2e ou 3e fois que ces deux partis en fait se remplacent au pouvoir, et d'une certaine manière, ce rétablissement de l'état de droit a quelques caractéristiques qu'il faut un petit peu rappeler. D'abord, on ne doit pas tout refaire, hein. Tout n'a pas non plus été mis à terre, il faut quand même le rappeler. Certaines institutions fonctionnent, à commencer par l'institution électorale, et de fait, le PIS a perdu le pouvoir par l'élection, hein, et l'opposition est revenue au pouvoir par l'élection. On ne part pas de rien, Hein, les institutions, les pratiques se sont constituées tout au long des années 90, 2000, tout de même ont porté leurs fruits, on conserve des traces. Ce sont les mêmes qui s'y collent. Hein, Donald Tusk, c'est pas la première fois qu'il est premier chef du gouvernement, il a déjà été. Et puis c'est une affaire polono-polonaise au sens où, même si c'est vrai, le pouvoir a pu s'appuyer sur les institutions européennes pour réformer, on va peut-être y revenir de manière un peu plus concrète, les institutions de l'intérieur avec l'appui extérieur, on n'a pas vu arriver l'armada transitologique classique qui est là lorsqu'il y a un changement de régime. Donc on est dans cet entre-deux, entre un changement de régime et une simple alternance politique.
Alors Yaroslav Kouich, ça passe par quoi? On ne restaure pas l'état de droit comme on restaure un bâtiment, on ne fait pas un rétro-planning du rétablissement de l'état de droit. Comment s'y est pris Donald Tusk? Toutes les mesures qu'il a commencé à prendre en disant qu'il s'agissait de renverser ce qui avait déjà été renversé, de remettre les choses d'aplomb en quelque sorte.
En 2023, deux voies s'offraient à la Pologne. En effet, la voie radicale, la réduction à zéro, disons. Donc, revenons entièrement à la situation de 2015, mais c'était pratiquement très, très difficile, parce que pendant 8 ans, il y a la juridiction qui est en marche, il y a des choses ordinaires qui sont décidées par les cours, etc. Donc c'est très difficile de réduire tout à zéro. Donc il y avait aussi la deuxième voie, la voie modérée, la voie des compromis. Le gouvernement Tusk a choisi la voie la plus douce, ce qui a un effet paradoxal parce que ça a entraîné des batailles juridiques en permanence. Donc c'était un terrain juridiquement miné et finalement on ne sait pas très bien si c'était un bon choix à la fin parce que c'était très difficile de dire en pratique si c'était un bon choix parce que finalement maintenant on voit que pour les gens, pour les électeurs et juste avant les élections présidentielles très très important de notre point de vue de ce qu'on parle maintenant sur l'état de droit, ce sont des élections qui vont finalement décider si Donald Tusk est en mesure, si son candidat gagne, et s'il est en mesure de faire des réformes entièrement, parce que pour le moment il est bloqué par le président Duda qui était actif en 2015 et après dans le processus de violation de la Constitution. Donc finalement c'est très très important ce qui se passe maintenant en mai pour l'état de droit, mais aussi c'est sans précédent parce que c'est le chaos est énorme et les nouveaux populistes sèment le chaos sémantique à l'échelle nationale et mondiale à la fois. Il y a une dispute permanente pour savoir qui enfreint la loi et en plus il y a la coopération international. Et par exemple, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a accueilli un des politiciens qui était accusé pour des crimes de la nature financière. Il l'a pris comme un prisonnier politique. Mmh. Donc vous voyez le chaos sémantique à l'échelle mondiale.
Un chaos sémantique et le président du tribunal constitutionnel aussi a contribué à semer un chaos sémantique en parlant de coup d'État en Pologne. Il parle de Donald Tusk et du fait que il a même parlé d'un groupe criminel organisé à propos de Donald Tusk et de son équipe qui chercherait à prendre le contrôle d'institutions clés de l'État telles que le tribunal constitutionnel, la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature. Car il faut dire, Jérôme Heurtaud, que la plateforme civique, le parti de Donald Tusk et les autres plus petites formations avec lesquelles il gouverne aujourd'hui, étant sans doute contraint par mille choses et notamment le fait que le président de la République jusqu'au 18, date du premier tour, est toujours Duda, Andrzej Duda, du PiS, donc du parti qui était au pouvoir jusqu'à présent et qui a un droit de veto très très large que lui permet de la constitution de 97. Est-ce que face à ces obstacles, Donald Tusk a dû parfois frôler l'illégalité ou dépasser le droit? Est-ce qu'il y a eu des purges? Est-ce qu'il y a eu aussi des mises en retraite anticipées de juges, comme l'avait fait avant lui le PiS, des poursuites en justice d'opposants politiques?
Alors, vous avez évoqué une affaire. Il faut savoir que cette affaire a été initiée par le président du tribunal constitutionnel, nommé par Andrzej Duda, et opposant déclaré à Donald Tusk. Notre collègue de Varsovie disait qu'il y avait des invectives permanentes et des accusations croisées. Je ne mettrai pas tout sur le même plan. Si on regarde très concrètement quels ont été les répertoires d'action de cette nouvelle majorité pour réformer l'État de droit, on se rend compte d'abord qu'il y a une diversité d'outils hein, qu'ils ont mobilisés. D'abord la loi. Le terrain de la loi. Adam Bodnar, qu'il faut citer.
Parce ministre
que
de la Justice.
Voilà, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits, juriste universitaire, spécialiste des droits humains, a été nommé ministre de la Justice et a dû présenter un plan Bodnar, on l'appelait comme ça, un plan législatif pour réformer par une série de lois l'ensemble des institutions qui ont été attaquées. Simplement, ces réformes n'ont pu être mises en place parce qu'il y a le veto présidentiel, en grande partie, mais ça a pu convaincre la Commission européenne de débloquer les fonds. Il y avait une urgence à partir de l'arrivée au pouvoir de débloquer les fonds européens dus à la Pologne en échange d'efforts de restauration de l'état de droit. Bon, le terrain de la loi, on le voit, n'est pas le plus aisé parce qu'il y a ce veto présidentiel et puis aussi la majorité n'a pas la majorité qualifiée des deux tiers pour un certain nombre de réformes.
En donc fait, il a le PiS utiliser... reste le premier parti au Parlement, si on parle que en termes de parti.
Absolument, il a d'autres moyens d'action, notamment une capacité à mobiliser dans la rue. Mais du coup, il a fallu utiliser d'autres outils en démonétisant, en paralysant les institutions prises par le, enfin, disons dirigées par, pas dirigées, mais dominées par le PiS. Par exemple, le tribunal constitutionnel, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a 12 membres du tribunal constitutionnel. Il manque 3 membres, mais tout est fait pour qu'ils ne soient pas nommés, pour empêcher cette institution de fonctionner. De la même façon que il est écrit dans...
Vous voulez dire aujourd'hui encore?
Aujourd'hui, absolument. Il est écrit dans un texte que les décisions du tribunal constitutionnel ont force de droit que si elles sont publiées. Donc le gouvernement, que fait-il? Il ne révoque pas les membres, ce qu'il ne peut pas. Il ne brûle pas le tribunal constitutionnel. Il ne publie pas les arrêts du tribunal, qui du coup n'ont pas force de droit. Alors, est-ce que c'est une distorsion du droit? Les juristes pourront certainement, évidemment, s'invectiver sur cette question. Moi, je ne me permettrai pas de faire un jugement. Mais en tout cas, il y a un usage, c'est très intéressant, une sorte d'inventivité légale rationnelle, pour parler comme Weber, une sorte de bricolage juridique qui, en utilisant les interstices du droit, permet de faire avancer les choses. Et par exemple, autre exemple, l'usage des résolutions parlementaires non contraignante. Alors, une résolution parlementaire n'a aucune espèce, justement, de capacité à changer les choses. Mais symboliquement, ça imprime dans les têtes un certain nombre de lignes rouges. Et ils l'ont fait plusieurs fois.
Alors, vous parlez de bricolage juridique, et vous, Jarosław Kwicz, vous parlez de post-populisme, de bricolage juridique. Quel débat cela crée entre juristes polonais, ne serait-ce qu'entre eux, tout ce qui est en train de se passer et on parlait du tribunal constitutionnel, le fait que le gouvernement ait voté une résolution qui remet en cause le fonctionnement même de ce tribunal, qui affirme que ce tribunal ne remplit plus sa fonction d'arbitre, ce qui permet au gouvernement de remettre en cause ses verdicts, ce qui, si ça avait été mis en place à l'époque par Mateusz Morawiecki, le premier ministre du PiS, aurait créé un énorme scandale. Comment ce post-populisme de bricolage juridique, comme vous l'appelez, crée des débats entre juristes polonais?
Les juristes polonais sont très divisés aussi parmi ceux qui sont les juristes pro-démocrates. C'est une petite tragédie des choses parce qu'ils sont, ils soutiennent le gouvernement Tusk en ce qui concerne les problèmes de sortir du populisme, mais en même temps, il y a tant de voix qu'ils se disputent énormément, et en plus, s'il faut opérer en dessous du niveau législatif dont nous avons parlé, finalement, c'est très, très, très compliqué au niveau pratique. Donc, finalement, il faut revenir toujours à l'élection présidentielle qui est fondamentale pour la réforme. Et finalement, pour aller jusqu'au bout avec un processus législatif, il faut avoir un président favorable, ce qui n'est pas finalement c'est pas joué d'avance. Parce que en mai 2022, on ne sait pas tellement qui pourrait gagner les élections. C'est une tragédie.
En mai prochain, vous voulez dire cette année. Il y a la question de l'élection présidentielle qui se profile avec le premier tour le 18 mai. Donc c'est imminent. On parlera des enjeux et de voir si la question de l'état de droit est un enjeu de la campagne. Alors il y avait plusieurs méthodes à l'arc de Donald Tusk, ne serait-ce que dans sa campagne. Avant qu'il ne soit élu, il disait qu'il fallait traduire en justice des personnalités comme l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki ou l'actuel président Andrzej Duda devant un tribunal spécial. Bon, finalement, ce n'est pas le cas, mais la question de poursuite en justice d'opposants politiques, d'affaires politico-judiciaires, n'est pas écartée par le nouveau ministre de la Justice, Adam Bodnar.
We are happy that we are in a position of rebuilding the whole system, but for
nous sommes heureux d'être en mesure de reconstruire l'ensemble du système. Mais ce qui est important selon moi, c'est d'une part de ne pas oublier cette période difficile de notre histoire, et d'autre part de regarder vers l'avenir avec différents mécanismes de responsabilité pour les abus passés. Et c'est ce qui se passe actuellement en Pologne. Nous allons donc de l'avant, nous réparons l'État, mais nous n'oublions pas les abus passés du système démocratique. Les progrès sont visibles, et ce que le bureau du procureur fait aussi au quotidien, c'est une grande lutte contre la corruption par le biais de différentes affaires concernant l'abus de position de la part de fonctionnaires de l'État.
Le ministre de la Justice, Adam Bodnar, Jarosław Kuisz, le ministre parle du bureau du procureur, aussi parce que Jérôme Hurtault nous le disait tout à l'heure, le ministre de la Justice, depuis le PiS, est aussi le chef du parquet national. C'était donc le cas sous le parti Droit et Justice à l'issue d'une réforme qui avait été très contestée puisqu'elle donnait de fait un droit de regard du ministre sur les enquêtes en cours. Est-ce que lui, Adam Bodnar, a défusionné les deux fonctions et résolu ce problème grave qui se posait en Pologne?
C'est encore une fois une petite tragédie des choses, parce que si on se débarrasse de notre pouvoir, ça pourrait être très difficile en pratique de prendre des mesures pour restaurer l'état de droit. Après 8 ans au gouvernement, les nouveaux populistes sont très forts en termes pratiques. Ils sont toujours les plus grands partis de Pologne, mais il y a une chose très importante dans notre sujet. Il y a sur les postes importants toujours les gens nommés par les populistes, par Jarosław Kaczyński, Droit et Justice. Donc, ils continuent à rester et à bloquer les réformes. Donc, pour Adam Bodnar, c'est un dilemme assez tragique avant les élections, au moins avant les élections. Est-ce qu'on se débarrasse de nos compétences dans cette période de transition? Est-ce qu'on va garder plus de pouvoir pour se battre contre les populistes, contre le milieu des néo-juges, etc.? C'est une chose assez remarquable, vu que le populisme est une idéologie vivante. Vous voyez, c'est pas, contrairement au communisme en 1989, le nouveau populisme croit invariablement qu'il est l'avant-garde de l'histoire, qu'il gagnera politiquement contre la démocratie libérale, etc.
Alors, Jérôme Hurtault, le débat se pose dans ces termes-là. C'est de savoir si la nature même de la démocratie en Pologne a été changée par le passage du PiS, qu'il faudrait être radical, ne plus considérer les juges comme des politiciens, enfin ceux qui ont été placés là, les médias comme des qui seraient devenus des organes de propagande, etc. C'est à ce titre-là qu'agit aujourd'hui Donald Tusk.
C'est tout le dilemme que vous citiez en début d'émission. Comment rétablir le droit tout en le respectant? Comment faire œuvre de retenue tout en agissant? Comment différer les profits d'une action politique? Ne pas seulement attendre des résultats immédiats. C'est très compliqué dans un contexte politique, encore une fois, en crise, avec une élection présidentielle qui se profile et qui n'est pas gagnée pour la majorité actuelle. Donc, la question, évidemment, est tout à fait compliquée. Alors, Adam Bodnar, par exemple, avait réagi dans une interview en disant « Je dois respecter le droit. Il y a une autre façon de se débarrasser, c'est de compter sur le temps est un allié, et puis de compter aussi sur les alliés au sein des tribunaux. Par exemple, un président de tribunal de droit commun, enfin de tribunal ordinaire, qui peut décider de ne pas donner du pouvoir ou de mettre au placard, en quelque sorte, d'autres juges qui sont parmi les néo-juges, sans qu'on touche à l'architecture institutionnelle. C'est peut-être moins coûteux en effort, moins coûteux pour l'état de droit, la démocratie, et disons à long terme profitable au pays. Il faut bien avoir en tête que ces juges sont très très nombreux dans les différents organes judiciaires. Et puis alors, ça fait penser un peu à l'eucalyptus, vous savez, ces arbres feuillage permanent, c'est-à-dire quelle que soit la saison, le feuillage continue de resplendir. C'est un peu ça, c'est très très difficile de se débarrasser de tous ces gens-là en une seule fois.
De 2015 à 2023, le PiS a nommé près de 1800 juges et assesseurs proches du parti.
Voilà. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question des poursuites judiciaires. Ça, c'est très important parce que on voit bien que la majorité actuelle veut à la fois, donc évidemment, transformer l'État, rétablir l'État de droit, mais aussi poursuivre des individus particuliers qui sont les auteurs de ces dépassements. Et il y a deux méthodes qui ont été employées. D'abord, les commissions d'enquête parlementaire, avec tous les effets pervers que ça peut représenter, on y reviendra peut-être. Et puis aussi, des signalements au parquet. Le parquet étant dans la main du ministre de la Justice, ça rend évidemment beaucoup plus facile les poursuites.
Yaroslav Kouich, outre les débats juridiques que posent ces méthodes-là, politiquement, comment le PiS, donc l'ancien parti au pouvoir, réagit au fait que son opposant, celui qui a pris la place de Premier ministre à la place de Morawiecki, utilise les mêmes méthodes aujourd'hui?
Juste pour ajouter, en ce qui concerne les néo-juges, il s'agissait aussi d'un problème humain. Il y avait énormément de juristes éduqués qui étaient devant le problème pratique. Est-ce qu'il faut faire carrière en tant que juge? Et il s'agissait aussi de gens qui n'étaient pas du tout politisés. Et c'était, bon, après quelques années de l'éducation juridique, c'était un problème pratique. Est-ce qu'on entre, est-ce qu'on fait carrière sous le populisme ou non? Et beaucoup de gens se sont décidés que, bon, tant pis, c'est la loi qui est en vigueur. Mais maintenant, on a ce problème entre la loi en vigueur et la loi toxique après le populisme. Donc, ils ont été nommés, selon les normes de la loi toxique du populisme, et finalement c'est vraiment ça s'ajoute encore au terrain juridiquement miné. Mais en ce qui concerne les élections, on voit maintenant en 2025 que l'effet Trump est aussi d'importance. Les populistes croient qu'ils peuvent revenir au pouvoir, donc il y a une espèce de résistance. Ils sont toujours présents dans les cours, ils sont toujours présents dans l'administration. Il y a pas mal de gens qui bloquent des réformes et ils attendent les résultats des élections présidentielles parce que le candidat de PiS gagne, la situation va rester comme ça et ils attendent pour revenir au pouvoir. Ils sont pas du tout vaincus comme les communistes en 1989. Donc finalement, ils utilisent tous les moyens, ils sèment le chaos sémantique pour faire plus difficile de restaurer l'état de droit. Ils font ça pas sans raison, ils font ça exprès, parce que très souvent, il s'agit de la responsabilité criminelle pour ce qu'ils ont fait pendant 8 ans au pouvoir.
Alors, ils peuvent, eux, arguer de ce que leur réforme de la justice avait aussi pour but, en l'occurrence, de réprimer la corruption, c'est ce qu'ils disaient à l'époque, de purger les institutions d'influence politique qu'ils disaient bien installées, et en l'occurrence, eux parlaient des influences communistes et pas de celles du PiS. Enfin voilà, c'est quand même un peu la même rhétorique. Vous n'avez pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas apprécié, Jérôme Meurtou, que j'emploie le terme d'utiliser les mêmes méthodes, que tout ce qu'emploieraient les mêmes méthodes, mais au moins, on peut quand même voir que ça donne des arguments au PiS que de dire « Regardez, finalement, ce n'est pas nous les antidémocratiques, ce sont eux où on l'est au même niveau. »
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est là où, évidemment, on est sur une ligne
de crête,
voilà. La question des affaires, par exemple, politico-judiciaires. Là, on a vu le gouvernement actuel, à travers des commissions parlementaires, notamment une qui existe toujours, hein, qui est l'enquête sur Pegasus, puisque quand même, l'ancien gouvernement avait acheté le logiciel Pegasus, qui a été utilisé pour écouter pour surveiller des opposants politiques, des avocats, etc. Donc c'est quand même très grave, hein, c'est une sorte de Watergate à la polonaise. Cette commission d'enquête donc a été mise en place, et il est vrai que le pouvoir, d'une certaine manière, fait un usage politique de cette commission d'enquête en organisant, par exemple, des arrestations extrêmement spectaculaires avec les médias d'anciens membres de la majorité précédente pour qu'ils viennent témoigner lors de ces commissions d'enquête. Donc, forcément qu'il y a un usage politique du droit, en quelque sorte, par la majorité actuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que cet usage politique du droit, vous avez eu la gentillesse de faire référence à mon livre « La démocratie par le droit » qui portait sur la Pologne, justement, il est assez ancien. Hein, depuis le début des années 2000, la lutte contre la corruption, qui est devenue une espèce de nouvel impératif catégorique de la politique en Pologne, devient un objet de la compétition politique et électorale, et dont se sont servis tous les partis politiques au pouvoir, en tout cas en position de majorité. Et ce fut le cas du PiS, ce fut le cas de PO avant lui. Alors aujourd'hui, cette ressource politique, elle est utilisée par PO. Elle peut donner...
La plateforme civique.
La plateforme civique. Elle peut laisser penser qu'effectivement, ils font comme le PiS. Mais enfin, encore une fois, sans reprendre forcément à mon compte la rhétorique antipopuliste, d'un côté les vertueux, de l'autre les populistes, je pense que c'est plus complexe que ça. Cela étant, il y a tout de même une différence de degré évidente, hein, entre plateforme civique de Donald Tusk et ce qu'ont fait pendant des années les leaders du PiS, hein, qui ont effectivement détricoté l'état de droit de manière absolument radicale.
On sait pas. En tout cas, toutes ces mesures prises et parfois, disons, à marche forcée pour rétablir l'état de droit, comment pèsent-elles sur la campagne pour l'élection présidentielle, dont le premier tour sera le 18 mai? Jarosław Kujsz, vous qui êtes à Varsovie, est-ce que c'est un sujet de campagne?
Oui et non. En effet, maintenant, on regarde la, on est dans les élections présidentielles qui sont assez bizarres parce que pour les gens, le sujet de la restauration d'état de droit était très important en 2023. Il reste toujours, mais ça est devenu si compliqué qu'il est très difficile pour les politiciens eux-mêmes De l'utiliser facilement dans la campagne présidentielle. Donc, en même temps, pour les politiciens, c'est très important, parce que nous venons de dire qu'il s'agit aussi de la responsabilité personnelle, parfois, voire ce qui concerne aussi peut-être président Andrzej Duda. Mais en même temps, il est très difficile de faire usage à la campagne. Donc, il y a plein de slogans qui sont pas très, qui sont pas du tout à propos de ce qui se passe au judiciaire. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas, il faut vraiment souligner, il n'y a pas de symétrie entre le gouvernement Tusk et le gouvernement de Morawiecki avant. Et l'objectif est différent. Et la tendance est différente. La tendance de gouvernement Tusk, c'est la tendance démocratique, pro-démocratique. La tendance de gouvernement de Morawiecki plus Kaczyński, c'était une tendance autoritaire plutôt. Donc vraiment, il faut souligner que...
C'est pas la même logique du tout.
Oui, de loin, ça pourrait avoir une ressemblance. Il y a des méthodes qui peuvent être comparées, mais franchement, c'est un malentendu énorme.
Alors,
il n'y a pas de symétrie.
Il n'y a pas de symétrie. Il y a des débats, vous le rappeliez, entre juristes polonais, la classe politique également, et au sein même de la coalition autour de Donald Tusk pose beaucoup de questions sur les méthodes, sur l'objectif, sur la méthode à plus long terme aussi. Et on verra comment la campagne présidentielle et surtout l'élection présidentielle bouscule un petit peu tout ça. Alors, il y en a qui trouvent que Donald Tusk va beaucoup trop vite et d'autres qui trouvent qu'il ne va pas assez vite, et notamment sur des questions de sociétales comme le droit à l'avortement. On en parle juste après, ces chanteurs polonais Kuban et Mrodzu.
Zanim spadnie deszcz nade mną czarne chmury, w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam z pągie jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest, zanim spadnie też. Żyłem jak bankrut, zbyle na piwku, zwiedzając miasto. Nie ma mnie tam już, ani na winklu, ani pod klatką. Lata na karku zleciały szybko i nie za darmo. Nie ma mnie tam już, a za to wszystko zapłacę kartą. Zanim spadnie deszcz nade mną czarne chmury, w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest, zanim spadnie deszcz.
Un titre qui en polonais veut dire « Avant que ne tombe la pluie » et que je serais bien incapable de prononcer, des chanteurs polonais Kuban et Mrodzu. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur le fragile état de droit en Europe centrale, aujourd'hui en Pologne, où pour rétablir l'état de droit, Donald Tusk, premier ministre depuis un an et demi, utilise des méthodes que ses opposants qualifient comme contre l'état de droit. On a bien entendu toutes les nuances que nos invités y ont mis, un cas de souveraineté post-traumatique, comme l'a dit par exemple Jarosław Kwisz après 8 ans du parti Droit et Justice au pouvoir. Mais entre le droit de veto du président Duda, les divisions au sein de la coalition civique au pouvoir, le premier ministre est contraint à des changements modestes. Ainsi en va-t-il par exemple du droit à l'avortement.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Donald Tusk promettait des avancées en matière de droit des femmes, mais les lois promises n'existent pas à cette heure. Bonjour Dorota Dakowska. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po, ex-spécialiste d'Europe centrale. D'abord, quand Donald Tusk prend ses fonctions de Premier ministre fin 2023, il est face non seulement à ce qu'a mis en place le PiS avant lui, mais aussi à tout ce qui précédait le PiS en matière de droit des femmes et droit à l'avortement. Comment le parti Droit et Justice avait-il alourdi encore une législation déjà très restrictive en la matière ?
Oui, en effet, c'était une des législations les plus restrictives dans l'Union européenne depuis 1993. Il faut savoir qu'avant 1993 et pendant la période communiste, l'avortement était autorisé. Et en 1993, il a été interdit en dehors de 3 exceptions. Malformation du fœtus, lorsque la grossesse représentait un danger pour la santé de la femme, qu'elle soit physique ou psychologique, et aussi lorsque la grossesse était le résultat d'un viol. Et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le compromis, entre guillemets, en matière de l'IVG. Et cette restriction a été adoptée par une majorité chrétienne-démocrate, notamment des membres de l'ancienne opposition démocratique anticommuniste, sous la pression de l'épiscopat de l'Église catholique. Et effectivement, le PiS a encore durci cela en 2020, donc ce parti conservateur Droit et Justice, puisqu'en 2020, le tribunal constitutionnel, téléguidé par le PiS, a interdit l'avortement en raison d'une malformation de fœtus. Décision qui a provoqué des manifestations massives des femmes. Il faut savoir en fait que l'avortement thérapeutique, comme on l'appelle en France, concernait 95% d'avortements réalisés en Pologne. Et donc, en 2020, l'avortement a été de fait quasiment délégalisé.
D'autant qu'on sait combien le viol, l'inceste reste difficile à faire valoir juridiquement, ouais. Et surtout quand la justice d'un pays est à ce point politisée, comme le rappelaient nos invités, les procédures sont longues. Donc l'avortement n'est pas interdit formellement, mais presque en Pologne, quand Donald Tusk arrive au pouvoir en 2023 et qu'il a fait campagne, entre autres, sur la promesse d'autoriser l'avortement au moins jusqu'à la 12e semaine de grossesse, mais rien à ce jour ne le garantit. Pourquoi, Dorota Dakowska, est-ce qu'il en a été empêché ou est-ce qu'il s'est finalement désintéressé de la question, estimé que ce n'était plus une priorité ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Et effectivement, Donald Tusk avait annoncé. Lorsqu'on lui pose la question aujourd'hui, il rappelle qu'il est pour cette libéralisation de l'avortement, mais il faut rappeler que cette coalition est hétérogène et que en dehors des libéraux, on va dire de Tusk, elle comprend aussi des conservateurs du Parti paysan, donc du Parti agrarien, et aussi des chrétiens démocrates, notamment le président de la Chambre basse du Parlement, qui justement a un peu traîné et pour ne pas faire voter ces lois. Alors, ce que l'on avance, c'est que c'est aussi le fameux veto présidentiel, le président conservateur Duda qui n'hésite pas à utiliser son droit de veto et donc qui pourrait émettre son veto si une telle loi avait été votée par le Parlement, par
la
Diète.
Ce qui n'empêche pas d'essayer. De voir si le président Duda met un veto ou pas, ce qui aurait d'ailleurs été de sa responsabilité à lui. Qu'il y a en attendant des moyens autres que législatifs pour autoriser quand même les femmes à avorter ou les soignants à les accompagner dans cette démarche? Parce que ce sont plus les aidants, les soignants qui sont en général poursuivis que les femmes elles-mêmes. Est-ce que, au-delà des lois qui ne sont pas possibles à prendre pour l'instant, il y a d'autres mesures, d'autres façons d'alléger un petit peu tout ce dispositif répressif?
Oui, il faut dire d'une part que l'avortement n'était pas totalement interdit, puisque l'avortement médicamenteux, lorsque c'est une femme qui le pratiquait elle-même, était autorisé, y compris à l'époque du PiS. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Aujourd'hui, en fait, le gouvernement est allé dans le sens d'une dépénalisation de fait. Donc les médecins se sentent moins menacés ou pas menacés lorsqu'ils procèdent à une IVG. Un exemple intéressant est la pilule du lendemain. Donc, le président Duda, fin mars dernier, a émis son veto sur une loi qui a été votée, qui donnait en fait accès à cette pilule sans ordonnance, puisque à l'époque du PiS, il fallait avoir une ordonnance. Alors, Duda a émis son veto. Il défendait le statu quo, donc il faut avoir une ordonnance pour que surtout les mineurs ne puissent pas avoir accès librement. Et en réponse, le gouvernement a publié une circulaire et il a introduit un programme pilote qui permet aux pharmaciens, à certaines pharmacies, de délivrer l'ordonnance pour recevoir la pilule. Donc, ce sont les pharmaciens qui délivrent l'ordonnance. Et résultat, des jeunes, à partir de 15 ans, peuvent se rendre dans ces pharmacies, y être reçus en toute discrétion, se faire conseiller et se voir prescrire la pilule. Donc, de fait, c'est possible de contourner un veto présidentiel.
Donc on est là encore dans le cas d'une forme de bricolage juridique ou de débrouille réglementaire qui contribue à une atmosphère peut-être plus permissive.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que tout le monde garde sa face. Le président garde sa face conservatrice, attendue par son électorat ou par l'épiscopat, voilà. Et le gouvernement permet effectivement d'avancer à petits pas en satisfaisant à la fois l'électorat progressif, mais aussi l'électorat conservateur qui cherche d'ailleurs à séduire.
Et dans le contexte électoral actuel, justement, quelle place prend cette question-là, les droits des femmes et spécifiquement le droit à l'interruption volontaire de grossesse pendant la campagne? Est-ce que c'est un sujet?
Je dirais qu'il a une place, mais relativement secondaire, voire marginale. Les droits reproductifs sont abordés surtout par les représentantes de la gauche, comme Małgorzata Biejat, qui dénoncent publiquement, mais assez délicatement, les atermoiements des membres conservateurs de la coalition gouvernementale en place. Et elle réclame ouvertement un accès à l'IVG libre jusqu'à la deuxième semaine d'aménorrhée. Mais on voit bien, en même temps, que dans le contexte de la guerre en Ukraine, d'autres questions dominent l'agenda politique, en premier lieu la sécurité. Donc, des membres du gouvernement répètent le mot sécurité des dizaines de fois.
Ah, est-ce que vous êtes encore avec nous, Dorota Dakowska? Le mot sécurité semble avoir contribué à couper la conversation. Non, vous n'êtes plus avec nous, alors je vais me tourner vers vous, Jérôme Meurtaux, qui est encore avec nous en studio, peut-être sur le contexte électoral actuel. Un mot sur la place que prend cette question dans la campagne, parce qu'on n'a pas développé tous les candidats qui se présentent et qui seront sujets au vote à partir du 18 mai, que ce soit du côté de la plateforme civique, le maire de Varsovie, qui est un jeune de la droite libérale, du côté du PiS, le candidat, c'est le président de l'Institution de la Mémoire Nationale, Karol Nawrocki, qui a rencontré Donald Trump récemment, et donc les États-Unis sont entrés dans la campagne aussi, comme nous le rappelait tout à l'heure Jaroslav Kuisch. Et puis un autre candidat dont on parle de plus en plus, Slavomir Mentsen du parti Konfederencja. D'abord, un mot sur la place des femmes et plus généralement la question de l'état de droit dans cette campagne.
Oui, alors Dorota Dabkowska l'a dit, hein, ce n'est pas une question majeure de cette élection présidentielle qui est presque toute entière, hein, consacrée à la question de la sécurité nationale dans le contexte du conflit en Ukraine, mais aussi la sécurité des frontières dans le contexte des pressions migratoires, et notamment autour du sujet des migrants qui sont à la frontière avec le Bélarus. Alors, effectivement, cette élection peut ressembler aux précédentes, c'est-à-dire au second tour, les deux qualifiés seraient l'un du PiS, l'autre de Plateforme Civique, hein, comme c'est le cas depuis 2005. On a la possibilité que Rafał Trzaskowski, qui est le maire de Varsovie, qui est le candidat de Plateforme Civique, gagne cette élection. Mais il y a aussi une autre possibilité, hein, que ce soit le candidat du PiS, Karol Nawrocki, si le scénario à la roumaine n'est pas d'actualité en Pologne. Mais il faut quand même, ce que vous avez cité, Confederacja, Confédération, ce parti d'extrême droite, remarquer que son candidat progresse, et qu'il, dans les derniers sondages, est autour de 15% des voix. C'est un parti qui est présent au Parlement, avec 16 députés, qui a des parlementaires européens, et qui séduit un électorat assez masculin, et aussi assez jeune d'ailleurs, avec une idéologie nationaliste, masculiniste, on pourrait presque dire, anti-fiscalisme, anti-migratoire, etc. Alors, donc il y a deux hypothèses, disons, crédibles à cette heure. Il y a la victoire de Trzaskowski. Si c'est le cas, alors effectivement, tout pourrait rentrer dans l'ordre, entre guillemets, avec la disparition de la censure présidentielle. Le veto présidentiel, a priori, n'aura plus de raison d'être utilisé. La majorité pourra enfin promulguer les lois qui réforment en profondeur le système judiciaire. Et puis, il va y avoir une mise en cohérence de l'exécutif, hein, la fin de cette cohabitation très très difficile. Mais ce sera aussi une heure de vérité pour la majorité. Heure de vérité parce qu'ils ne pourront plus porter l'excuse du veto présidentiel sur les questions sociétales. Et il n'est pas certain qu'il y ait une majorité suffisante pour, par exemple, légaliser les unions de personnes de même sexe, ou pour effectivement autoriser et même promouvoir l'avortement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dépénaliser, il faut aussi créer les conditions d'un usage possible et routinier de ce droit. Et puis si c'est Karol Nawrocki qui gagne, donc le candidat du PiS, bah, la situation risque d'empirer, poursuite de l'obstruction présidentielle, crise de la majorité actuelle, qui est déjà critiquée en interne, surtout pour ne pas avoir tenu toutes ses prémices, mais en quelque sorte un rééquilibrage des pouvoirs qui prendra la forme d'une aggravation, à mon avis, de la crise politique.
Jarosław Kuisz, ce qui pourrait, vous qui êtes à Varsovie et qui suivez de près cette campagne, dans l'hebdomadaire dont vous êtes le rédacteur en chef, Kultura Liberalna, ce qui pourrait vraiment faire gagner le PiS, c'est l'abstention, dit-on en ce moment en Pologne.
Oui, c'est vrai. Juste pour ajouter, en ce qui concerne Sławomir Mentzen, le candidat assez bizarre, mais en même temps, il faut comprendre qu'il s'agit d'un candidat de la troisième voie, disons, c'est un candidat de contestation contre le duopole de Tusk et Kaczyński. Il se change au pouvoir depuis 20 ans. C'est la manière dont présente les choses Mentzen. Mais finalement, il n'a que 14% de soutien. Rafał Trzaskowski, aujourd'hui, il a 30%. Karol Nawrocki, le candidat de Kaczyński, il a 27%. Donc, comme vous voyez, toutes les voies sont ouvertes pour que le duopole reste. Mais en ce qui concerne l'état de droit, nous avons parlé que c'est très très important que Trzaskowski gagne.
Merci beaucoup. On entend en tout cas que votre hebdomadaire Kultura Liberalna à Varsovie a une couleur politique, on va dire, et on l'a bien entendu, Jarosław Kuisz, dans la façon dont aujourd'hui vous défendez cette politique pour le rétablissement de l'état de droit. Il faut en passer par là, disiez-vous. C'était vraiment passionnant de vous entendre tous les deux dans vos nuances. Merci beaucoup, Jarosław Kuisz. Je rappelle le livre que vous avez fait paraître aux presses universitaires de Manchester, The New Politics of Poland, ainsi que vous, Jérôme Meurtaux, La démocratie par le droit aux presses de Sciences Po et 1989, comment le communisme s'est effondré. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
C'est à la une, Catherine, des journaux du monde entier. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement bombardés cette nuit.
Et cette escalade de tensions est particulièrement observée, redoutée même par les chancelleries du monde entier. Car l'Inde et le Pakistan sont deux puissances nucléaires, souligne le New York Times, la BBC, la Süddeutsche Zeitung en Allemagne, le quotidien El Mundo en Espagne, le Corriere della Sera en Italie, Infobae en Argentine ou encore ABC News en Australie. New Delhi a donc tiré cette nuit des missiles sur le Cachemire et le Pendjab pakistanais. Seules des infrastructures terroristes ont été visés, affirment les autorités indiennes, citées par les journaux Mint et The Hindu. Mais le Pakistan parle de dizaines de civils tués, dont deux fillettes de 3 ans, rapporte le quotidien pakistanais Dawn, qui suit les événements en direct. L'Inde se félicite d'avoir vengé l'attentat commis il y a 2 semaines contre des civils, des touristes dans la région du Cachemire, administrée par l'Inde. Des hommes hindous auraient été ciblés en raison de leur religion, indique le Time Magazine. Des Indiens et un Népalais abattus d'une balle dans la tête. Une tragédie qui a touché, analyse le Time, une corde sensible dans toute l'Inde, du grand public au Premier ministre Narendra Modi, ultra-nationaliste hindou lui-même. Le Pakistan dément toute implication et pour la chaîne d'information pakistanaise GeoNews, New Delhi n'a apporté aucune preuve contre Islamabad. Justice a été rendue, réplique ce matin l'Inde. Tolérance zéro envers le terrorisme, déclare le ministre indien des Affaires étrangères, qui a écrit un message sur X, analysé par l'Hindustan Times et la BBC, pour évoquer l'opération Sindoor, le nom que l'Inde utilise pour décrire les frappes lancées ce matin contre le Pakistan. Le chef de la diplomatie indienne a pris un fond noir. Avec les mots « opération Sindoor », écrit en blanc, l'un des O du mot Sindoor est un petit pot rempli de poudre vermillon que les femmes hindoues mariées portent à la racine de leurs cheveux, explique la BBC. Référence donc aux femmes qui sont devenues veuves après que leurs maris ont été abattus il y a 2 semaines, la plupart du temps sous leurs yeux, rappelle l'Hindustan Times.
The name has been chosen by Prime Minister Narendra Modi himself. Operation Sindoor signifies the revenge of all those young women who were.
Le nom de l'opération Sindoor a été choisi par le Premier ministre Narendra Modi lui-même pour venger toutes ces femmes qui étaient en voyage avec leurs maris lorsqu'ils ont été tués par des terroristes à bout portant, explique une journaliste d'India Today dans un reportage télévisé. Tous les Indiens appelaient alors à réagir après ces images déchirantes de jeunes mariées devenues veuves du jour au lendemain. Et le nom de l'opération Sindoor envoie donc un message fort aujourd'hui, celui de la vengeance, insiste India Today, qui parle même de la mort de 90 terroristes pakistanais. L'un des sites visés cette nuit par l'armée indienne est une mosquée dans le Pendjab pakistanais, liée, selon le renseignement indien, à des groupes proches du mouvement djihadiste Lashkar et Taiba, explique le journal The Hindu. Ce groupe était déjà soupçonné d'être derrière les attaques qui avaient fait 166 morts à Bombay ou Mumbai, c'était en 2008.
Et le Pakistan a répliqué aux attaques indiennes de ce matin.
Après s'être préparé à des attaques de l'Inde depuis plusieurs jours, des avions de chasse de l'armée de l'air pakistanaise ont pris leur envol cette nuit, raconte la chaîne d'information pakistanaise GeoNews. Islamabad affirme avoir abattu 5 avions de chasse indiens, dont un rafale au moins, rapporte encore GeoNews et le journal pakistanais Dawn, pour qui ce pourrait bien être la perte la plus grave pour l'armée indienne depuis des décennies, au risque de provoquer une nouvelle escalade, craint le quotidien Dawn, entre l'Inde et le Pakistan, des pays voisins ennemis jurés depuis leur partition dans la douleur en 1947, rappelle le New York Times. Le ministre de l'information pakistanais a également affirmé tôt ce matin sur la télévision d'État PTV News que plusieurs postes de l'armée indienne de l'autre côté de la frontière avait été détruit par les forces pakistanaises. Il affirme que des Indiens ont été contraints d'agiter un drapeau blanc. Dans le Pendjab pakistanais, cette fois où vivent près de la moitié des 240 millions d'habitants du pays, toutes les écoles ont été fermées aujourd'hui, tous les hôpitaux placés en état d'alerte maximale, indique Dawn et le Corriere della Sera. Le Cachemire s'est embrasé. Des échanges de tirs entre les troupes indiennes et pakistanaises le long de la ligne de contrôle, la frontière frontière qui divise la région contestée entre New Delhi et Islamabad. Un nuage de fumée noire, de très fortes explosions, notamment autour du village de Pounch, dans le nord-ouest du Cachemire, visé par de nombreux obus pakistanais. Et puis crainte aussi d'une guerre de l'eau. New Delhi a suspendu le traité des eaux de l'Indus qui régit la façon dont les eaux de six rivières doivent être utilisées par l'Inde et le Pakistan, explique le New York Times. Ça risque donc pour la consommation humaine au Pakistan et pour l'irrigation des cultures, alors que ce secteur représente un quart de l'économie du pays. Et pour l'ONU, conclut le Time Magazine, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan.
Merci Catherine Dutu.